ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Amen.
Seigneur, ce matin, nous voulons nouvellement nous repentir, revenir à toi. Laissez toute chose derrière pour entendre ta voix. Seigneur, fais-nous miséricorde et parle-nous. Donne-nous vraiment un cœur pur qui s'humilie devant toi ce matin, d'être aussi pauvre en esprit. Seigneur, nous voulons toujours plus recevoir et connaître de toi. Fais de nous aussi ces Jean-Baptiste aujourd'hui, ces précurseurs pour ton retour. Hier, nous avons vu que le Seigneur va très probablement, très bientôt revenir. Nous sommes vraiment impatients de voir ce qui va arriver et nous nous préparons. Comme dans ce qui concerne la politique, il y a beaucoup de choses qui sont préparées. Il y en a qui travaillent continuellement à amener au but ce traité de paix. Et combien nous devons aussi être en train de nous préparer afin que nous soyons préparés pour son royaume. Et ce matin, nous voulons voir que le retour du Seigneur ne vient jamais comme ça par hasard. Il ne se passe pas comme ça par hasard, mais il y a toujours une préparation, un précurseur. Le Seigneur, tout à la fin de l'ancienne alliance, dans le dernier prophète, le Seigneur a dit à Malachi 3, les deux derniers versets, jusqu'à ce soir. Ouais, le verset 4, je pense. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le Seigneur envoie toujours un précurseur. Pourquoi est-ce que le Seigneur envoie toujours un précurseur? Que pensez-vous? S'il le veut, parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça que le précurseur est important. Il a besoin d'un précurseur. C'est mieux ainsi. Si nous considérons la première venue du Seigneur, si le Seigneur était venu sans précurseur, qu'en pensez-vous? À quoi ça aurait ressemblé quand le Seigneur est venu pour la première fois? Est-ce que tout était beau et bien? Est-ce que tout s'est passé selon la volonté de Dieu? Comment est-ce que je dois le dire? Quand le Seigneur est venu, extérieurement, tout paraissait beau et bien. Ils avaient le temple, ils avaient des sacrificateurs, ils ont offert des offrandes. Tout paraissait bien et beau, mais intérieurement, c'était pas beau. L'état du peuple de Dieu était vraiment déchu. Je vais vous le prouver. J'ai lu avant la conférence et j'ai été effrayée. Dans Matthieu 11, recevoir une idée de l'état du peuple de Dieu, pas du monde, mais du peuple de Dieu, quand le Seigneur est venu pour la première fois. Ça paraissait bien extérieurement, mais à partir du verset 20, Matthieu 11, alors il se mit à faire des reproches. Ah oui, dans lesquels elle avait lu la plupart de ses miracles parce qu'elle ne s'était pas repentie. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est-à-dire qu'ils étaient plus endurcis que Tyr et Sidon. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et ensuite il dit, et toi Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, à Sodome, je ne connais pas une ville plus pécheresse que Sodome dans la parole. Elle subsisterait, donc avait été fait dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Cela montre vraiment à quoi ça ressemblait. L'état était encore pire que celui de Sodome. Je n'oserais pas le dire, mais c'est écrit ici. Le cœur du peuple de Dieu était si endurci. Pas de n'importe qui, mais de ceux qui croyaient, qui avaient la parole, qui avaient les promesses, qui avaient le temple, qui avaient tout, mais leur cœur était si dur. Ils n'étaient pas en état de parvenir à la repentance, de se repentir. Et qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui parmi le peuple de Dieu? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux? Aujourd'hui, nous sommes si volontaires pour nous repentir. À quoi nous appelle aujourd'hui? Ah, dans Apocalypse, le Seigneur nous appelle. Appelle tellement d'églises à la repentance. Est-ce qu'ils se sont repentis? Non, pas non plus. Ils ont tous disparu, ils sont tous tombés. Cela montre combien ce précurseur est important. Quand le Seigneur vient et qu'il n'y a pas de précurseur, alors il n'y a très peu, presque personne qui va être sauvé. C'est pour ça que Jean-Baptiste était si important. Et Dieu l'a envoyé et il prêchait dans le désert de Judée. Est-ce que c'est un bon endroit pour prêcher, Georges? Est-ce qu'on doit faire annoncer l'évangile dans le désert? Georges trouve toujours les plus belles salles pour les présentations pour l'évangile. La plus belle salle à Heilbronn. Non, mais Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Il n'avait aucune salle. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert? Et qu'il a grandi dans le désert. Je dirais même grandi sauvagement dans le désert. Dans le désert, pardon. Il se nourrissait de sauterelles, de miel. Quand j'étais là-bas, il y avait vraiment des sauterelles et ça produisait un bruit. C'était vraiment, il avait de la nourriture, ça c'est sûr, il y avait beaucoup de sauterelles. Mais pourquoi dans le désert? Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a mis là? Parce que le Seigneur veut appeler les hommes à sortir de tout. Là où ils sont de la religion. Au verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. C'est très difficile. D'apporter une une telle parole de repentance dans la religion. Le Seigneur n'a pas envoyé Jean-Baptiste à Jérusalem, mais il l'a mis dans le désert, placé dans le désert. Et aujourd'hui, parfois, nous voulons aller dans beaucoup d'endroits, mais sais-tu, c'est mieux que les gens sortent là où le Seigneur nous conduit à la repentance. C'était vraiment prévu par le Seigneur d'avoir laissé Jean-Baptiste prêcher dans le désert, en dehors de toute religion, en dehors de toutes ces traditions qui ont grandi. Ça, c'est un bon endroit, le désert. Louez le Seigneur pour cela. Là, nous devons vraiment être ainsi être libres de tout ce qui tient les hommes captifs dans la religion. Ils ont reconnu leur péché, se sont fait baptiser. Dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Là, il dit, comme dans Ésaïe, je ne retrouve plus, voilà, verset 3. Celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste a parlé très clairement. La voix de celui qui crie, cela veut dire qu'il avait vraiment élevé sa voix pour conduire le peuple à la repentance, appeler le peuple à la repentance. Ce n'est pas notre langue naturelle qui appelle quelqu'un à la repentance. Est-ce que quelqu'un fait ça volontiers, annoncer « Repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche ». Qui est-ce qui fait ça volontiers? Nous avons une telle résistance naturelle de sortir cette phrase de nos lèvres. C'est pas mal, c'est assez difficile. Mais lui, il n'est pas venu avec ses propres paroles. Mais dans Luc 1, on voit comment Jean pouvait prêcher cette parole, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'esprit et la puissance d'Élie. Le temps d'Élie n'était pas non plus un temps très, très facile. Le temps d'Élie était vraiment le temps où il y avait de l'idolâtrie, où l'idolâtrie était vraiment très élevée parmi le peuple. Et ils ont amené toute cette idolâtrie en Israël. Et c'est par cette puissance que Jean-Baptiste a parlé. Et aujourd'hui, il y a tellement de chemins détournés. Aujourd'hui, il y a un standard qui est complètement tordu. Ce qui est droit, c'est l'exception. Et ce qui est tordu, c'est le standard. Aujourd'hui, c'est si normal, par exemple, qu'il y ait toute cette homosexualité partout, même dans les livres d'école, qu'on l'introduise. Ce n'est vraiment pas un âge très bon. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait avoir aujourd'hui un précurseur. Et comment pouvons-nous élever notre voix? Nous avons besoin de cet esprit, de cette puissance d'Élie. Pas n'importe quel esprit, mais dire au Seigneur, quand il envoie d'élever sa voix pour appeler les gens à la repentance, de dire concrètement au Seigneur, « Seigneur, fortifie-moi maintenant. » Par l'esprit et la puissance d'Élie. Louez le Seigneur. Élie était sur la montagne comme prophète seul. Il y avait 400 prophètes de Baal. Ils étaient vraiment une foule. Et lui, il s'est levé et il a appelé tout le peuple à la repentance. Et cet esprit et cette puissance, nous pouvons l'avoir aussi aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un encouragement. Ça peut vraiment délier notre langue pour que nous aussi, nous puissions appeler, amener les gens à la repentance. Ça, c'est, il était équipé de ça, Jean-Baptiste, de cet esprit et cette puissance d'Élie, pour que le Seigneur reçoive un peuple qui s'est préparé pour lui. Louez le Seigneur pour cela. Et ensuite, dans Matthieu 3, verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Je crois que si quelqu'un vient habillé ainsi à la réunion, nous allons le regarder de manière bizarre et lui demander s'il ne s'est pas perdu. Mais Jean Baptiste ressemblait à cela. Se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça veut dire qu'il ne se préoccupait pas de son apparence. Il ne se préoccupait pas de ce que les autres pensaient. Comment est-ce que tu te tiens là avec un vêtement de poil, de chameau? Mais ça peu lui importait. Lui, ce qui lui importait, c'était ce que le Seigneur avait à dire. Et c'est souvent, en fait, un empêchement d'élever la voix quand on est tellement dépendant de ce que les gens pensent, comment les autres réagissent. Mais lui, le Seigneur, comme Jean-Baptiste changeant nos vêtements, avoir ce vêtement de poil de chameau. Seigneur, je veux vraiment laisser toutes mes pensées sur mon apparence, comment les autres me voient. Et je veux laisser tout ce genre de pensées et pas me préoccuper de ça. Récemment, on a lu dans une réunion d'un jeune homme qui s'appelle Eliu. Dans Job 32, il a aussi dit des paroles qui n'étaient pas si agréables. 32, verset 18. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont éclater. Job 32, 17, 18, 19. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Louez le Seigneur. Si tu veux appeler les gens à la repentance et en même temps tu flattes, alors cet appel va être moins puissant. Je n'aurai point... car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Verset 22. Comme il a écrit, c'est si bon d'expérimenter cet esprit qui n'a pas la crainte des hommes, mais la crainte du Seigneur. Il faut bien plus penser, qu'est-ce que le Seigneur pense de moi si maintenant je n'ouvre pas ma bouche, au lieu de penser ce que les hommes vont penser. Ça, c'est une pensée plus saine. Qu'est-ce que mon Créateur va dire? Si bon, si nous préoccupons plus de ce que notre Créateur pense, qu'est-ce que les autres pensent autour de nous? Peut-être que pour les autres, nous paraissons bizarres. Et ils disent, regarde, il ne lit que la Bible. Mais mes collègues me disent souvent ça. Pourquoi est-ce que tu lis toujours ce livre? Tu le connais certainement déjà par cœur. Mais il n'en va pas de le connaître par cœur, mais il en va de le vivre. Et cela paraît tellement bizarre pour les autres. Mais pour le Seigneur, ça lui plaît. C'est si bon d'être comme ce Jean-Baptiste, d'avoir ce vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et qu'est-ce que le Seigneur a encore dit au sujet de Jean-Baptiste dans Luc 1, verset 15? Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Qu'est-ce que ce verset montre? Verset 16, hein, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Jean-Baptiste était un Naziréen. Je ne sais pas si vous connaissez tout cela. C'est quelqu'un dans Nombre 6. C'est chacun qui veut être Naziréen, le peu homme ou femme. C'est quelqu'un qui fait un vœu volontaire au Seigneur. C'est ce vœu de Naziréa. C'est quelqu'un qui se consacre à l'Éternel, qui est mis à part. Et Jean était quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui était mis à part, qui était consacré, qui était sanctifié pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il était rempli du Saint-Esprit. Cela fait une telle différence. Comment nous mettons à part pour le Seigneur. C'est si bon de se mettre à part entièrement pour le Seigneur, de dire au Seigneur, Seigneur, dans ce monde, je ne suis que pour toi, plus rien d'autre. Je ne veux pas avoir deux buts, particulièrement quand je vois que le Seigneur nous donne le temps maximal en 2020, que ce dernier temps commence, la dernière étape. Alors je veux être quelqu'un qui est sanctifié pour le Seigneur. C'est volontaire. C'est si bon d'avoir une telle consécration et de correspondre au Seigneur. Dans Nombre 6-8, pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Cela montre que ce n'est pas aujourd'hui, être consacré aujourd'hui et pas demain, mais pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Consacrons-nous entièrement au Seigneur, complètement. Durant ces jours, je me suis vraiment consacré au Seigneur, nouvellement. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ma prochaine étape, mon but, c'est que en automne 2020, je suis pleinement consacré. Je ne veux pas perdre mon temps et ma force dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je dois prendre une décision en ce qui concerne mon travail. Le Seigneur m'a montré, oui, tu peux le faire. J'avais de ce sens-là la liberté. Mais le Seigneur m'a montré, est-ce que dans ce temps, est-ce que tu veux encore consacrer quelque chose de tes propres capacités pour ce monde? J'ai dû dire au Seigneur, Seigneur, je me repens. Je veux, durant tout ce temps, je veux être consacré, être sanctifié pour toi et pas perdre mon temps et ma force dans d'autres choses, mais tout consacrer au Seigneur. Et pourquoi? Pour être cette voix. Cette prophète, ce que Esaïe a dit au sujet de Jean-Baptiste, hein, c'est cette voix, la voix de celui qui crie. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut nous entendre? Est-ce qu'on peut nous entendre dans la réunion? Est-ce qu'on peut nous entendre dans le monde? Jean-Baptiste, Esaïe a dit de lui, C'est ici la voie.
Amen.
Je dis nouvellement, Seigneur, Seigneur, je veux nouvellement être une voix pour toi, pas ma propre voix. Souvent, on élève plutôt facilement notre propre voix. Quand on se fâche, alors là, on a aussi une forte voix. Quand on est fâché, qui n'a pas de voix quand il est fâché? Là, nous avons tous de la voix. Mais quand il s'agit du royaume, de l'évangile du royaume, alors là, on n'a plus de voix. Là, tout à coup, je me tais. Mais ce n'est pas ainsi avec le précurseur. Je me suis vraiment réjoui. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert.
Amen.
À dire au Seigneur, Seigneur, délie ma langue pour ton royaume, pour l'évangile du royaume. Pas seulement pour n'importe quelle parole. Dans la réunion, c'est souvent... nous sommes tous sur la retenue. Parfois, on ne sait même pas si quelqu'un était là parce qu'on n'a rien entendu de lui. Après la réunion, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Bien sûr, pendant la réunion, on ne peut pas tous parler en même temps, c'est clair. Mais je pensais, qu'en est-il intérieurement en nous? Est-ce que ce n'est pas comme ça que... Quand il en va des choses du Seigneur, souvent, c'est comme retenu en nous. Il a notre langue colle. Et quand il s'agit de prier à la réunion, d'annoncer l'évangile, t'as ta langue qui colle et ça ne part pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Marc 7. Nous avons tous ce problème. En nous-mêmes, dans notre être, nous avons tous ce problème. Dans Marc 7, il y a quelqu'un qui vient au Seigneur, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le pria par loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. »
Amen.
Si nous sommes dans cet état, et nous remarquons, je dois parler, mais je ne peux pas parler. Nous avons un Christ qui soupire avec toi et qui dit, « Ouvre-toi. » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. C'est une bonne prière de dire au Seigneur, Seigneur, délie ma langue pour l'évangile du royaume, pour appeler les gens à la repentance. Depuis, nous avons dit sans le précurseur. Comment est-ce que les hommes peuvent parvenir à la repentance? Parfois, nous avons des représentations. Mais ce que nous avons entendu hier, je peux vous assurer qu'il y a peu de personnes qui connaissent ça. Que le Seigneur revient aussi rapidement, il y a peu de croyants qui le savent, très peu. Beaucoup n'ont aucune idée combien le retour du Seigneur est proche. Et malheureusement, ils pensent à la fin des temps, beaucoup... Même âme, on a déjà entendu si souvent que le Seigneur revient. Cette voix-là, on l'entend toujours plus fort, mais cette voix du précurseur de « Repentez-vous, car le royaume des cieux approche », on l'entend toujours moins. C'est pour cela que c'est important que nous élevions notre voix pour le Seigneur et que nous appelons et disons « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parce que le temps est proche, le temps est très proche. Et l'état du peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas bon. Dans le résumé, il a exposé les races de vipères. C'est mis que Jean-Baptiste. C'était en fait les conducteurs de la religion, dans la religion. C'était les races de vipères. Et ça, aujourd'hui, personne ne le voit. Presque personne ne le voit. Tous pensent, regarde là, il y a quelqu'un qui a étudié la théologie, il y a quelqu'un qui exerce un métier dans l'église, un pasteur. Et nous pensons que les anciens, pensons que c'est tous des gens merveilleux, des prédicateurs. Je me permets de douter que c'est vraiment ainsi. Il y a beaucoup de faux prophètes. On a aussi vu dans la dernière conférence. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ne te fais pas de soucis, nous allons tous au ciel. » Je veux dire que ça, c'est une race de vipères. Tu sais, ils disent « Tu sais, tu ne dois pas être si absolu pour le Seigneur. Tu es sauvé. Reste ici, simplement. » Il y a tellement de choses tordues aujourd'hui. Ce sont vraiment des chemins détournés. On voit même que les conducteurs dans Matthieu, ils rassemblent le Dieu, ils remplacent le Dieu trinitaire. On peut juste regarder ce passage pour être un peu impressionné. On peut impressionner, on peut regarder tout le chapitre dans Matthieu 23. Particulièrement contre le peuple de Dieu, nous devons élever nos voix, pas seulement pour les incroyants, mais particulièrement aussi pour les croyants, pour qu'ils aient un chemin pour se repentir, revenir et se préparer pour le retour du Seigneur. L'état aujourd'hui est bien plus tordu que ce que nous voulons, que ce que nous le représentons. Nous le représentons. Dans Matthieu 23, verset 8, le Seigneur dit, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Aujourd'hui, il y a tellement de titres parmi les chrétiens. C'est sans fin. Ce matin, j'ai juste regardé des au sujet des différents titres. J'ai dû tellement, avec mon doigt, glisser sur l'écran, que j'ai perdu l'envie de regarder plus loin. La liste était si longue. C'est vraiment aujourd'hui le standard. Et je ne dis pas cela pour critiquer, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Dit, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Nous ne sommes pas des Juifs aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Rabbi, c'est pasteur. Docteur, pasteur. Révérend ou d'autres titres, Monseigneur, Excellence, ou je ne sais pas tout ce qu'il y a, Bischof, la liste est très longue. Mais le Seigneur a dit, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Nous pensons, mais qu'est-ce que tu dis là? Cela me dérange. Ça, c'est un point d'achoppement pour moi. Mais le Seigneur a dit, nous ne devons pas le faire. Alors nous ne devons pas le faire, si le Seigneur l'a dit. Point. Barre. Ce matin, j'ai lu un article. Quelqu'un a tenté d'expliquer dans un article pourquoi c'est en ordre de le faire. Non, c'est la religion. Si aujourd'hui, nous revenons à la parole du Seigneur, alors nous pouvons être sauvés. Mais si nous tordons deux fois la parole du Seigneur, ça ne va pas. Le Seigneur dit, ne le fais pas, alors je le retourne et je le fais. On fait volontiers ça, mais quel est le problème? On voit souvent, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui s'occupent de l'âme, de l'état, de l'esprit, du côté spirituel, qui prennent soin. Et le problème, c'est qu'à la fin, ce n'est plus le Seigneur qui, comme en tant que l'esprit qui enseigne, mais ce sont les hommes. Et tu lis la parole, et s'il n'y a pas un commentaire sur ce passage ou un catéchisme ou quelque chose, alors tu ne comprends plus la parole. Alors, l'enseignant que le Seigneur nous a donné est remplacé par ces hommes, ces enseignants-là. Alors là, on doit se repentir. Ne dis pas que nous n'avons pas besoin de communion. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de communion, mais ça, c'est de la maladie. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Nous n'avons pas de conducteur de l'Église. Nous sommes tous des frères. Et ça doit rester ainsi. Ça doit vraiment rester ainsi. Et ensuite, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui appellent une personne Saint-Père, les catholiques. Il y a aussi des orthodoxes, enfin, d'autres qui veulent être appelés Père, en fait. Si tu vas dans l'église orthodoxe araméenne, là, le pasteur, il faut lui dire Père. Et là, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Aujourd'hui, tout est tordu. Et ne pensons pas que ce sont des petites choses, que ça ne joue aucun rôle, que c'est ainsi depuis des siècles. Mais si le Seigneur dit, vous ne devez pas, qui suis-je pour dire, mais vous pouvez? Est-ce que je suis plus grand que le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur va me dire quand il revient bientôt et que je suis devant lui au jugement? Et que je dis au Seigneur, mais vous devez. Et le Seigneur dit, non, vous n'appelez personne. Ce n'est pas écrit juste pour que nous le lisions, mais c'est vraiment la parole à partir de laquelle le Seigneur va nous juger. C'est pour cela que c'est très important que nous obéissions à chaque parole du Seigneur. Et après que nous ayons obéi à la parole du Seigneur, nous devons encourager et exhorter les autres à obéir à la parole du Seigneur. Comme Jean-Baptiste a exhorté et encouragé le peuple à obéir à la parole du Seigneur. Et nous devons aussi agir ainsi. Nous ne disons pas notre propre parole, nous sommes qu'une voix. Ça m'a vraiment souvent libérée de la crainte des hommes. Je ne suis pas celui qui l'a écrit. Ce n'est pas mon message. Quand je dis à quelqu'un, tu sais, les dénominations, les divisions, c'est faux. C'est faux. Alors ce n'est pas mon idée. Mais c'est écrit. Quand je dis à quelqu'un, oui, tu sais, c'est tout ce service de pasteur, c'est faux. Le Seigneur veut être notre enseignant. Nous sommes tous des frères. Nous ne sommes pas responsables de ce message, mais nous sommes juste la voix. Louez le Seigneur. Il doit vraiment nous aider à parler la vérité. Il dit ensuite... j'ai perdu le passage. Alors dans Matthieu 23, vous ne faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Sans hiérarchie, que tu sois jeune ou que ça fait longtemps que tu es là, nous sommes tous des frères. Celui qui est là depuis 40 ans, il n'a rien contre celui qui est ici depuis une année ou un mois. Nous sommes tous frères. L'église que lequel le Seigneur a du plaisir, dans Apocalypse, lequel le Seigneur prend plaisir, c'est Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Et ensuite, ça continue. Il y a ensuite 8 malheurs. Et qui sont vraiment utilisables pour nous aujourd'hui. Nous devons lire cela pour nous-mêmes et pour le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu, pour rendre son chemin tordu, détourné, droit l'aplanir. Le Seigneur a besoin aujourd'hui d'hommes qui utilisent leur voix pour aplanir le sentier, le chemin. Et tout à la fin, le Seigneur dit encore au verset 38 aux pharisiens, il leur dit, voici votre maison, vous sera laissée déserte. Cela veut dire que si aujourd'hui le peuple de Dieu, si nous ne repentons pas, à la fin ce n'est plus la maison de Dieu où nous sommes, mais c'est notre maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions, de rencontres qui s'appellent la maison de Dieu. Mais si nous pratiquons ce que Matthieu 23 juge, alors à la fin nous ne sommes plus la maison de Dieu, mais c'est notre maison. Alors le Seigneur déménage. Nous ne pouvons pas pratiquer le contraire de tout ce que le Seigneur juge et attendre que le Seigneur reste ici. L'idolâtrie, l'hypocrisie, être intérieurement mort, sans loi, à l'extérieur tout paraît si beau et saint, à la réunion tout paraît glorieux, mais en fait derrière il n'y a que le mensonge, l'hypocrisie. Tu penses que le Seigneur reste là? Votre maison vous sera laissée déserte. C'est pour ça que ce chapitre de Matthieu 23 est très important pour nous. Afin que nous ne tombions pas sous ce jugement, que nous puissions être ces précurseurs qui utilisent leur voix pour que le peuple de Dieu soit amené à la repentance. C'est vraiment triste à quoi ressemble le peuple de Dieu aujourd'hui. Il n'y a aucune faim pour la vérité. Il n'y a non plus de nourriture pour les saints. Aujourd'hui, hier, il y avait une sœur chez nous que nous connaissons depuis longtemps. Et nous avons pensé qu'il faut qu'elle connaisse la parole, la vérité. Elle a habité, je crois, 5 ans avec nous, je ne sais plus. Mais elle était remplie. Elle ne connaissait rien de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, la récompense ou comment le Seigneur va juger. Elle ne connaissait pas tout ça, elle n'est pas consciente de tout ça. Il y a tellement de choses qui étaient tordues. Mais ma femme a pris le temps et a essayé d'aplanir les sentiers chez elle. C'est si bon qu'on utilise notre voix pour aplanir les sentiers du Seigneur. Aplanissez les sentiers. Et dans toutes ces choses tordues, le Seigneur a besoin de personnes comme Jean-Baptiste, des précurseurs. Le Seigneur en a besoin. Et c'est en esprit et dans la puissance d'Élie. Et si nous avons la crainte des hommes, c'est bon de lire encore 1 Roi 18 et de dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi cet esprit-là. » Quand Élie s'est levé avec force et puissance sur cette montagne, le Seigneur revient bientôt et c'est si important qu'il ait un tel précurseur pour amener, conduire le peuple de Dieu à la repentance.